Le quart d'heure philo, enjeu philosophique d'une situation du quotidien.
Je me regarde dans le miroir pour me coiffer, me raser, me maquiller, voir si je me trouve beau, si j'ai des boutons disgracieux ou si j'ai vieilli. Le miroir réfléchit mon image. Il réfléchit. Et excusez-moi si c'est une marque d'orgueil, mais cela me fait un peu mal qu'un simple objet réfléchisse et qu'il réfléchisse peut-être davantage que moi. Il reflète mon image ? Eh bien moi, à son image, je veux m'interroger sur ce qu'il peut m'apprendre de philosophique, d'intéressant sur ma propre nature et ma propre condition. Le plus simple est de commencer par considérer que, quand je me regarde dans un miroir, ce que je vois, c'est moi. Je prends alors à la fois conscience du fait que j'existe et de ce à quoi je ressemble. C'est ce dont les animaux, à l'exception de quelques chimpanzés et dauphins dressés, ne sont pas capables. Les nourrissons eux-mêmes ne se reconnaissent pas dans un miroir, n'y voyant au mieux qu'un autre bébé, tout en reconnaissant par contre l'adulte qui est généralement situé derrière eux, ou sur une photo, ou sur une vidéo. Ils n'ont pas atteint ce que les psychanalystes, notamment Jacques Lacan, appellent le stade du miroir, qui caractérise un être capable de savoir qu'il existe de manière réflexive. C'est d'ailleurs pour cela que l'on dit que le miroir réfléchit. Il dédouble en un sens ce que nous sommes, comme la réflexion me permet de prendre conscience de ce que je suis ou de penser à un objet. L'adjectif qui lui correspond est spéculaire, mot dans lequel on retrouve spéculation, c'est-à-dire réflexion. Vous remarquerez d'ailleurs que nous nous voyons alors de face et que nous n'avons pas vraiment conscience de ce à quoi nous ressemblons de profil, donc en totalité. Ce qui est important ici, c'est qu'en prenant conscience que nous sommes celui que nous voyons dans le miroir ou sur une photo ou sur une vidéo, nous prenons simultanément conscience de ce que nous représentons pour autrui. Autrement dit, nous nous voyons comme nous voyons qu'autrui nous voit. C'est d'ailleurs pour cela que nous sommes alors capables de nous voir nous-mêmes dans notre tête, comme on dit, en projetant en nous l'image que nous supposons être. Je dis bien que nous supposons, car il y a parfois un certain décalage entre ce que nous croyons représenter et ce que nous représentons vraiment. Je peux croire que je me tiens ou que je marche de telle manière, alors que ce n'est pas le cas. Et c'est précisément pourquoi certains acteurs, sportifs ou hommes politiques, ont recours à la vidéo pour mieux prendre conscience de ce qu'ils font réellement. L'effet miroir leur révèle une part de vérité qui, autrement, demeurerait cachée. Certains acteurs, tels que Harrison Ford, Megan Fox, Nicole Kidman ou Johnny Depp, en jouent et affirment d'ailleurs, peut-être est-ce vrai, qu'ils ne supportent pas de se voir eux-mêmes dans leurs films et qu'ils ne les regardent jamais. Mais allons plus loin. Puisque le miroir nous permet de nous rendre compte que nous sommes et de voir qui nous sommes, il est aussi l'occasion de nous interroger sur nous-mêmes. C'est ce qui arrive tout simplement lorsque je regarde si j'ai des cheveux blancs ou si mon maquillage est correctement mis. Ou si je m'assure d'être bien un important personnage ou un bad boy, comme dans la célèbre scène jouée par Vincent Cassel au début de La Haine. C'est à moi que tu parles, c'est à moi que tu parles comme ça. Et qui évidemment fait référence à la scène jouée et improvisée par Robert De Niro dans Taxi Driver, You're talking to me. Qu'est-ce que je fais alors ? Je m'observe, je me juge, je peux me demander à quel point je ressemble à celui que je veux être, à celui que j'étais ou à celui que je serai. Le miroir peut alors jouer le rôle d'une conscience morale. Mais qu'ai-je fait ? Mais que vais-je faire ? Ou d'un questionnement identitaire. Qui suis-je ? Que suis-je devenu ? Il est ainsi, et peut-être plus que tout autre objet, un objet philosophique, puisqu'il me fait me poser la question éminemment philosophique, qui suis-je ? C'est également l'enjeu de la série satirique Black Mirror, qui interroge les aspects sombres de notre société moderne par rapport aux nouvelles technologies. Black Mirror. Ce n'est sans doute pas un hasard si ces grands miroirs, mobiles et inclinables, montés sur des châssis, se nomment d'ailleurs des psychés, mot qui renvoie en grec au mot âme, souffle de vie. C'est notamment l'utilisation qui en est faite dans le film de Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut, littéralement les yeux grands fermés, dont l'affiche représente les deux personnages principaux dans un miroir. Une scène quelque peu sulfureuse présente d'ailleurs ce couple nu devant un miroir, l'intrigue du film consistant en une recherche identitaire. Qui sommes-nous l'un pour l'autre ? Quelle place donner au désir, conjugal et extra-conjugal ? Nous aimons-nous encore ? Autrement dit, pour reprendre l'étymologie dont nous parlions, notre couple a-t-il encore un souffle de vie, amoureux et sexuel ? A-t-il encore une âme ? Kubrick joue alors sur le fait que le couple d'acteurs lui-même, Nicole Kidman et Tom Cruise, se questionne alors sur sa solidité et se séparera d'ailleurs peu de temps après le tournage, leur personnage étant donc en partie le reflet de leur vie privée. Et face au dédoublement du numérique dans une société des médias comme la nôtre, l'antique miroir trouve ses doubles, C'est d'ailleurs pour cela que l'on s'interroge sur le narcissisme de cette société dans laquelle nous ne cessons d'être mis en image et de nous mettre nous-mêmes en image. Du selfie à la sextape, en passant par la mise en scène de notre propre vie sur les réseaux sociaux, il est clair que nous avons affaire à un jeu de miroir dans lequel l'homme moderne tente de créer et de maîtriser sa propre image. Une mode actuelle consiste même à imiter les stars, donc à n'être que leur pâle reflet, qui se photographient en train de se photographier, parfois devant leur miroir, redoublant ainsi l'aspect narcissique du selfie. Mais il faut ici préciser quelque chose. Narcisse, ce héros de la Grèce antique, ne tombe pas amoureux de lui-même, mais de son reflet qu'il voit un jour dans un ruisseau. De sorte que s'il lui fallait choisir entre lui et son reflet, Narcisse choisirait sans doute le reflet. Qu'il n'y a donc pas à proprement parler de narcissisme chez quelqu'un qui se regarderait, même plusieurs fois par jour, dans un miroir. On peut y voir tout au plus de la vanité, c'est-à-dire une estime excessive de soi-même. Mais cela peut aussi être tout simplement pour s'assurer que son apparence est correcte, ce qui est un manque de respect de ne pas le faire, et une générosité envers les autres. Il y aurait par contre du narcissisme, si la passion d'une personne pour son image dépassait celle qu'elle a pour la réalité, si elle préférait ses photos savamment mises en scène à elle-même, si elle allait par exemple essentiellement voir la tour Eiffel pour le plaisir de s'y prendre en selfie, ou si elle prenait davantage de plaisir à faire et avoir des sextapes qu'à faire réellement l'amour. Et il semble bien que ce soit l'un des travers de la société de l'image à laquelle nous appartenons. Reste toutefois à savoir si cela est une perversion de la modernité, qui pousse l'homme à être narcissique, ou si cela révèle au contraire une part de vérité sur la nature profonde de l'être humain qui n'aurait pas pu s'exprimer jusqu'à présent, étant donné qu'il est assez difficile de faire des sextapes ou des selfies à la Renaissance. Je me dois bien sûr ici de faire mention du conte de Grimm, Blanche-Neige, et de la célèbre phrase de la méchante reine « Miroir, mon beau miroir, qui est la plus belle au pays ?» Celui-ci répondit « Ma reine, vous êtes la plus belle ici, mais Blanche-Neige est encore mille fois plus belle. » La reine en fut épouvantée. Cette fable n'est d'ailleurs pas sans rappeler le mythe grec de Psyché. Nous l'avions dit, cela signifie « âme ». Les Psyché, ces grands miroirs dont nous avons déjà parlé. Psyché était en effet une princesse si belle que tous les habitants du royaume l'admiraient, et que la déesse de l'amour, Aphrodite, ivre de jalousie, tenta de la tuer. Dans les deux cas, en termes d'amour démesuré de soi et de sa propre image, on peut difficilement trouver mieux. Mais soulignons trois points importants au sujet de ce conte de Grimm. Tout d'abord que ce miroir magique, pure source de vérité et incapable de mentir, est à la fois un objet et une personne. La vanité de la reine fait qu'elle ne se contenterait sans doute pas d'un miroir qui lui dirait mécaniquement qu'elle est la plus belle, comme pourrait le faire un jouet parlant. Elle veut que ce soit par un acte conscient et libre qu'on reconnaisse sa beauté supérieure. Dans le film de Walt Disney, elle s'adresse d'ailleurs non pas au miroir comme à une chose personne, mais à un esprit prisonnier à l'intérieur de l'objet. Et c'est cette reconnaissance que l'esprit ne lui donne pas, puisque Blanche-Neige surpasse sa beauté et fait naître chez la reine une jalousie meurtrière. Son attitude est d'ailleurs paradoxale, puisqu'elle demande la vérité au miroir, mais ne l'assume pas quand on la lui révèle. Ensuite, si on se rapporte au texte d'origine, et non pas à la version française du film de Walt Disney, la reine ne dit pas « miroir », mais, selon les traductions, « mon beau miroir »,« mon joli miroir » ou encore « mon petit miroir ». Dans tous les cas, elle flatte donc son miroir afin que lui-même, en retour, la flatte. Il y a donc un jeu de miroir entre la reine et son miroir. On perd cette subtilité dans le dessin animé de 1937, où elle se contente de lui parler comme à un valet, et lui crie « Esclave du miroir magique, accours au plus profond des espaces, miroir magique au mur, qui est la plus parfaite et pure ?» Enfin, il y a un lien dialectique entre la reine à l'état naturel et l'apparence qu'elle prendra pour tenter de tuer Blanche-Neige, puisque c'est transformée en une vieille femme laide qu'elle entend faire reconnaître au miroir magique qu'elle est enfin la plus belle. À la vérité révélée et insoutenable du miroir renvoie donc la mystification de la reine. Il n'y a donc pas simplement une histoire avec un miroir dans Blanche-Neige. C'est le conte de fées lui-même qui est une histoire de miroir, étant constitué comme un multiple jeu de miroir. De plus, le miroir n'est pas simplement l'objet qui me permet de me voir et de me juger, mais aussi de me mettre en scène socialement. Le miroir, qui est pourtant généralement confiné dans des lieux intimes, tels que la salle de bain ou les toilettes, n'en possède donc pas une importante dimension publique et sociale, puisqu'il me permet de ne pas être simplement un individu, mais une personne. Ces deux mots sont souvent assimilés dans le langage courant, mais leur distinction fine est pourtant importante. Je suis un individu parce que je suis individu. Je forme un être bien différent des autres. J'ai un corps et un visage que l'on peut reconnaître, une identité civile et administrative, un ADN, des empreintes, rétiniennes notamment, qui me sont propres et qui me définissent individuellement. Mais je suis aussi une personne, au sens étymologique de persona, qui désigne en latin un masque, celui que l'on portait au théâtre ou au carnaval. Cela renvoie à la pluralité des rôles que je joue en société. Je peux être tour à tour le fils, le père, le frère, l'amant, le mari, l'ami, le chef, l'employé, le citoyen, le soldat, l'acteur, le médecin, le président, le mannequin, le client ou autre. Je suis toujours moi, mais jamais le même. La couverture du DVD de Eyes Wide Shut dont nous parlions représente d'ailleurs un masque vénitien, une importante scène du film se déroulant dans un manoir où a lieu une orgie mystique dans laquelle les hommes sont masqués. Cela symbolise la quête d'identité qui anime le personnage central, quête quasiment psychanalytique, puisqu'elle a pour but de lui faire savoir qui il est, en vérité, fût-ce inconsciemment. Or, le miroir est un objet bien particulier, car il me permet de me voir à la fois comme individu et comme personne. Comme individu tout d'abord, puisqu'il renvoie de l'image de mon corps, éventuellement en entier si c'est une psyché. La psychologue Mélanie Klein a en ce sens montré que les nourrissons, qui ne se reconnaissent pas dans un miroir, vivent leur corps non pas comme un tout, mais comme un corps morcelé, qu'ils maîtrisent encore mal et qu'ils découvrent peu à peu. Mais aussi comme une personne, car le miroir me renvoie à mes différents rôles sociaux, aux multiples vérités que j'incarne. Je me coiffe, me maquille ou m'habille de telle façon, et je m'apprête, le mot est bien choisi il me semble, je m'apprête devant mon miroir à jouer le rôle du chef d'entreprise, de la femme à séduire, de l'enseignant, du candidat qui va passer un entretien d'embauche, du père de famille en week-end qui s'autorise donc à ne pas se raser, etc. En ce sens, le miroir ne me renvoie pas simplement mon image, mais plus précisément mes images, puisque chacun de nous est en réalité pluriel. De plus, ce n'est pas simplement l'image de l'homme qui se reflète dans le miroir. C'est aussi l'usage que nous faisons du miroir qui reflète ce que nous sommes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous vous êtes sûrement rendu compte qu'il était présent dans les mythes, les contes, les romans, les films. Ce qui est significatif, c'est que le miroir est alors généralement considéré comme un passage, souvent vers un autre monde ou vers une vérité cachée. La référence la plus célèbre étant ici sans doute Alice au Pays des Merveilles, ouvrage de Lewis Carroll, dont la suite se nomme précisément « De l'autre côté du miroir ». Mais aussi dans des films tels que « Orphée » de Jean Cocteau ou « Matrix » des frères Wachowski. Cela est possible parce que le miroir crée bien sûr l'illusion d'une profondeur, là où il n'est que surface. Mais ce n'est pas tout. S'il est un passage vers autre chose, c'est parce que l'homme lui-même en est un. Voilà à quoi nous renvoie le miroir, voilà ce qu'il révèle, le fait que l'homme soit un continuel passage, une transcendance vers autre chose que ce qu'il est, sous tel aspect ou à tel moment. Il me montre ma condition existentielle, le fait que j'existe au sens fort du terme, c'est-à-dire que je dois faire des choix, étant un être libre et non pas déterminé par mon instinct. Mon miroir me renvoie donc l'image de mon humanité, me jette au visage le fait que mon essence réside dans mon existence, selon la formule employée par Heidegger dans Être et Temps et reprise par Jean-Paul Sartre. Mais il me dit aussi, ce brave miroir, que si j'existe, je suis pourtant loin d'être tout-puissant et que je suis voué à mourir. Vous l'avez d'ailleurs sans doute remarqué, les vampires, ces monstres mythologiques tels que Dracula, ont des caractéristiques qui toutes nous renvoie de manière inversée à la vérité de l'homme, c'est-à-dire à sa finitude. Les vampires craignent la lumière, source de vie pour nous, les crucifient, saint Paul de vérité et de salut présumé, et l'ail, autrefois considéré comme bienfaisant, notamment pour les malades. Ils défient certaines lois de la nature, auxquelles nous sommes soumis, ils sont immortels, ont un pieu dans le cœur et à une décapitation près, d'accord. Et surtout, ils n'ont pas de reflet dans les miroirs. Et c'est précisément parce qu'ils ne peuvent pas mourir qu'ils n'ont pas de reflet. C'est là le lien intime entre ces deux caractéristiques qui fait que le vampire est lui-même le reflet inversé, le miroir déformant de l'homme. Si je suis capable de me reconnaître dans un miroir, cela prouve que je sais que j'existe, mais aussi que je sais que je suis mortel. Le miroir, c'est donc cet objet qui m'éveille autant à ma vie qu'à ma mort. Il me rappelle que je suis un passage, mais que je suis aussi en vérité seulement deux passages.
Le quart d'heure philo sur Jet FM par l'association Philosophia, tous les premiers et troisièmes mercredis du mois à 18h45, rediffusion les deuxièmes et quatrièmes vendredis.